Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Bonjour. Lancement aujourd'hui des journées nationales de vaccination contre la polio, couplée à la riposte contre la rougeole. La rougeole dans l'épidémie affecte actuellement 63 zones de santé du pays. Notez que plus de 21 millions d'enfants sont ciblés. Jean Bamanissa a proclamé définitivement gouverneur de l'Ituri. La cour d'appel de cette province a rendu son arrêt cet avant-midi. La victoire de Bamanissa a été contestée par le regroupement AAA. Et comme invité ce lundi, ce midi, nous recevons Eve Bazaïba, directrice exécutive du Bureau d'études sur l'implication de la femme dans la réalisation des objectifs de développement durable. Lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la polio, couplée à la riposte contre la rougeole. Cela se passe dans 63 zones de santé. Le lancement est lieu aujourd'hui à Kinshasa. Ces campagnes mobilisent plus de 230 000 acteurs du ministère de la Santé ainsi que des partenaires. Elles ciblent 19 466 000 enfants âgés de 0 à 59 mois pour la polio et plus de 2 200 000 enfants âgés de 6 à 59 mois pour la rougeole. Ces ripostes sont appuyées techniquement par les partenaires dans MRI, OMS, UNICEF et MSF. Autre précision avec Blaise Makassi.
Au cours de son allocution, le représentant de l'OMS en RDC a affirmé que l'humanité est à un tournant décisif de l'éradication de la poliomyélite dont l'échéance est désormais fixée en 2023. À ce titre, le plan stratégique de l'éradication de la poliomyélite et la phase finale met l'accent sur le renforcement du système de vaccination des routines ainsi que le confinement du poliovirus dans les laboratoires. Il note qu'en RDC, la situation de la rougeole est très préoccupante. À la 14e semaine de l'année 2019, le pays a atteint 73% des cas notifiés au cours de la même période en 2018, avec 13 fois plus de décès. Ces campagnes mobilisant plus de 230 000 acteurs du ministère de la Santé publique et partenaires ciblent plus de 19 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois pour la vaccination contre la poliomyélite dans 502 zones de santé et plus de 2 200 000 enfants âgés de 6 à 59 mois pour la vaccination contre la rougeole dans 63 zones de santé. Les coûts opérationnels de ces campagnes sont estimés à plus de 9 200 000 dollars américains.
À propos de l'épidémie de rougeole, elle continue de s'étendre dans la province du Kasaï. Les deux derniers mois, le nombre de zones de santé touchées est passé de 5 à 11 sur les 18 que compte cette province. Le nombre de victimes est également en augmentation. Le gouverneur de la province parle désormais de 4018 cas, parmi lesquels 177 décès. Marc Manyanga, qui annonce le début de cette campagne de vaccination dont nous venons de parler, plaide pour plus de moyens en vue de lutter efficacement contre cette épidémie. Il est joint au téléphone par Joël Bofengo.
C'était d'abord 5 zones de santé, maintenant nous sommes pratiquement à 11. La campagne proprement dite commence le 19. Donc c'est une campagne mixte en fait polio et rougeole hein, qui va concerner d'abord les 5 zones qui ont été notifiées avant. Hein. Il y a quand même une faible couverture vaccinale jusqu'à présent. Et on les comprend très bien parce que il y a tous ces enfants qui n'ont pas été vaccinés de tous les phénomènes Kamuena Sapu. Et vous savez qu'on a eu beaucoup de refoulés d'Angola. Du 1er octobre jusqu'à pratiquement la fin de l'année, on était autour de 325 000 qui ont traversé la frontière. Il y avait beaucoup d'enfants non vaccinés et donc il faut beaucoup de moyens. Il faut ajouter aussi les cas de malnutrition. Il y a des actions qui sont menées, mais il faut davantage les croître. Hein. Nous ne doutons pas un seul instant que le gouvernement central puisse davantage s'impliquer et nous demandons aussi à nos partenaires traditionnels qui nous ont toujours assistés qu'ils puissent voler à notre secours.
Sachez que l'Union européenne a annoncé hier avoir débloqué 225 000 euros d'aide humanitaire pour soutenir la lutte contre cette maladie dans la province du Kasaï. En Ituri, la cour d'appel vient de proclamer définitivement la liste Jean Bamanissa Saïdi comme gouverneur de province et Martin Tchalodoudou comme son adjoint. L'arrêt de la cour d'appel de l'Ituri a été rendu cet avant-midi au cours d'une audience en matière de contentieux électoral qui opposait le regroupement politique membre du FCC Alliance pour l'avenir AAA au camp du candidat malheureux Sami Adubango à la CENI. AAA avait introduit sa requête pour demander l'annulation de la décision de la CENI proclamant provisoirement Jean Bamanissa Saïdi gouverneur élu de la dernière élection. L'arrêt de la cour de ce matin a entraîné un mouvement de liesse dans la ville. Reportage Martial Kizabiamongo.
La cour d'appel de l'Ituri programmera la liste de M. Jean Bamanissa Saïdi, Chalodoudou Martin, élu au premier tour.
C'est par ces mots que la Cour d'appel de l'Ituri s'est prononcée sur les contentieux électoraux entre les candidats Maléré du ticket FCC Sami Adoubango contre la Commission électorale nationale indépendante CENI et Jababanissa Saïdi. La Cour dans son arrêt a déclaré que la requête du regroupement Alliance pour l'avenir était recevable mais non fondée. Elle a motivé son arrêt par une jurisprudence de la Cour suprême de justice qui s'était prononcée en cette matière de la majorité absolue. Les avocats des gouverneurs Bamanissa saluent cette décision et parlent d'une victoire du peuple. Maître Bruno Nzombe, un des membres de ce conseil.
Je suis satisfait parce que la Cour a fait déférence à une jurisprudence que nous avons évoquée. Cette Cour, elle est à féliciter.
Les cas Adoubango s'incluent de la décision de la Cour, mais dit s'est réservé les droits de faire appel de cette décision auprès du Conseil d'État. Précision avec son proche, Maître Antoine Denaya.
La Cour est allée dans le sens de la CENI, devoir aller devant le Conseil d'État.
Notons que Jababanissa Saïdi devient le deuxième gouverneur élu de la province de l'Ituri après Jefferson Abdallah Penembaka. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Le président de la République vient de réconforter la population du territoire de Calais au sud Kivu, endeuillée par le naufrage d'une pirogue motorisée qui a fait une centaine de disparus lundi sur le lac Kivu. L'arrivée du chef de l'État sur le lieu de la catastrophe a permis à la population de lui remettre en même temps un cahier de charges qui se résume en 5 points. C'est notamment ce point lié à la présence de groupes armés, nous dit Delphine Birimbi, représentant du bureau de la coordination de la société civile du sud Kivu, au micro de Jean Kassami.
Ce que nous avions prévu à nous remettre comme cahier de charge, c'est d'abord qu'on crée une commission qui pourra établir aussi les faits qui venaient d'endeuiller le mouvement de l'île Nord et que les affaires sont punies. Comme deuxième élément, il faut qu'on réglemente la question de navigation sur les lacs Kivu à travers la disponibilisation des bateaux qui pourront être disponibles pour transporter les personnes et leurs biens. Comme troisième élément, il faut qu'on asphalte la route Kavu-Mosaki pour prévenir d'autres drames similaires. Quatrième élément, il faut qu'on oriente les partenaires pour venir en aide les familles des victimes. Et cinquième élément, nous demandons à Son Excellence le Président de la République de décréter un deuil national pour les Congolais disparus dans ce naufrage du 15 avril 2019 dans le territoire de Calais. Ce sont là les éléments de notre document. C'est un document qui a été élaboré par l'aspect civil et mis aux autorités territoriales et provinciales pour qu'on puisse lui remettre le tel document.
Hier, le président de la République a clôturé sa visite de travail dans la ville de Beni, au nord Kivu. Il y a présidé une réunion de sécurité avec plusieurs hauts responsables de l'armée et de la police nationale sur la problématique du groupe armé ADF actif dans la région de Beni. L'essentiel de cette rencontre avec Martial Papi Mukeba.
Les ministres de la Défense nationale, son collègue de l'Intérieur, les chefs d'état-major général des FRDC, l'inspecteur général de la police, les commandants de la 3e zone de défense des FRDC et les directeurs des cabinets du chef de l'État ont pris part à cette réunion. Selon les sources militaires, pendant environ 3 heures, les commandants du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord a délivré un exposé sur les opérations de l'armée contre l'ADF, ses conséquences sur les FRDC et surtout les populations civiles qui subissent les tuyaux de ces groupes armés depuis 3 ans à Beni. D'après la même source, pendant son exposé, le général Marcel Mbangu a sollicité auprès du chef de l'État des moyens matériels et la poursuite de la coopération militaire entre les FRDC et la MONUSCO pour la neutralisation de l'ADF et la restauration de la paix dans la région. D'autres sources sécuritaires précisent que le président Félix Tshisekedi, qui a été attentif à l'exposé du commandant des opérations Sokola 1, a promis de mettre tout en œuvre pour permettre aux FRDC de mettre fin à l'activisme de l'ADF. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
L'ambassadeur des États-Unis a effectué une visite de travail à Lubumbashi et Kalemi hier et aujourd'hui jeudi. À Lubumbashi, le diplomate américain a inauguré un centre culturel américain avec comme objectif de raffermir les liens entre son pays et la RDC. Mike Heimer note que son pays est fier de la coopération de paix et de sécurité qui va poursuivre en RDC à la demande du président de la République, Félix Tshisekedi, une demande faite lors de son séjour aux États-Unis. D'après lui, cela va également améliorer le climat des affaires. Faire les notions de droit de l'homme et le professionnalisme des éléments FRDC. On écoute Mike Hammer dans cet extrait choisi par Neil Kabena.
Et je suis très contente qu'on peut revenir ici à Lubumbashi parce que la relation des États-Unis et la RDC, pour les fortalecer, on doit avoir la présence dans les différentes régions. Nous voyons une possibilité d'améliorer notre relation entre les deux pays. Avec le thème minière, on essaiera à notre ambassade américaine à Kinshasa de faire la connexion avec les investisseurs américains et travailler pour combattre la corruption, pour améliorer la sécurité. Mais cette coopération de défense doit soutenir les efforts de l'État congolais. Comprenez que le sujet des droits de l'homme, c'est très important. J'avais parlé avec le président, il a dit que c'est très important de formaliser et développer le professionnalisme de l'FRDC et de travailler pour améliorer la situation de sécurité par tous les pays.
Arrêt d'activité des chauffeurs en taxi ce jeudi dans la ville de Matadi fustige le refus des autorités de la ville d'autoriser l'augmentation du prix de la course en taxi depuis la hausse de celui du carburant chez des revendeurs communément appelés Kadhafi. Ce matin, ces chauffeurs ont brûlé des pneus dans plusieurs ronds-points de la ville de Matadi, notamment à Kiamvu. La mairie a engagé des pourparlers avec ses conducteurs de taxi. Guirouji Nampala.
Outre le pont Kiamvu, des pneus ont été également brûlés au rond-point Mikondo dans la commune de Vouzi et le rond-point 24 novembre a été momentanément barricadé par les chauffeurs de taxi. L'un d'eux affirme qu'il est inacceptable que le prix de l'essence passe de 1600 à 2200 francs congolais auprès des revendeurs appelés Kadhafi et que un mois après, le prix de la course ne suive pas. Les chauffeurs proposent, dit-il, que la course atteigne 700 francs au lieu de 500 francs congolais aujourd'hui. À l'heure actuelle, cette grève rend difficile le transport en commun dans certains coins de la ville de Matadi. Ce sont les motocyclistes qui se frottent les mains. Hier, mercredi, une équipe des chauffeurs a été reçue par le maire de Matadi, Patinzuzua Makengedi. Cette rencontre a accouché d'une souris d'après un chauffeur. Faux, répond le numéro 1 de la ville interrogé. Patinzuzua a déclaré qu'il avait demandé à ses chauffeurs d'aller réfléchir et de revenir ce matin pour lui faire des propositions concrètes. Après l'intervention de la police, les barricades érigées ont été levées. La suite de ces échanges entre les représentants des chauffeurs et le maire de Matadi sera connue dans les heures qui suivent. Matadi, Guirouji Nampala, Radio Okapi.
L'invité.
À Kisangani, le bureau d'études sur l'implication de la femme dans la réalisation des objectifs de développement durable, BIDODD, a organisé hier une conférence à l'intention des femmes leaders de la société civile et des partis politiques. Cette conférence avait pour thème « Femmes capables de transformer son environnement avec les objectifs de développement durable, ODD ». Comment y arriver? F. Bazaïba, directrice exécutive de BIDODD, répond au micro de Dorcas Kanko.
Eve Bazaïba, bonjour.
Bonjour.
Madame, dites-nous, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à prendre cette initiative?
Premièrement, c'est l'information, parce que les femmes doivent être informées. Ça fait aujourd'hui 4 ans qu'à travers le monde, il y a déjà des évaluations des 4 ans d'implication des ODD. Je suis convaincu, deuxièmement, que lorsque les femmes s'impliquent, l'espoir du développement de la Tchopo est permis et il est possible d'atteindre des ODD. Il n'y a pas que l'État pour ça. Les ODD, il y en a 17. Il faudrait que les femmes d'abord aient l'information. Qu'est-ce qui se décide à travers le monde? C'est tout un programme de développement. Lutter contre la faim, contre la pauvreté. Comment on les fait? Lutter contre le réchauffement climatique, la problématique de l'environnement, la question de l'éducation, la question de l'emploi, de l'habitat décent. Les femmes ne sont pas informées. La santé, par exemple, leur dire que l'automédication fait partie des causes des décès. Elles ne sont pas informées. Elles vont s'acheter les médicaments elles-mêmes, elles avalent. Elles donnent aux enfants. Donc, l'objectif qui m'a poursuivi de le faire, c'est l'information, solliciter l'implication de la femme pour que nous puissions les atteindre.
Et alors, qu'est-ce que vous attendez de cette femme de la Tchopo?
J'attends d'elle son implication. Et j'ai senti que depuis qu'elle est informée, beaucoup d'entre elles, à travers leur structure, commencent à recadrer leur positionnement. Nous venons d'avoir le premier projet ensemble avec eux, c'est l'éducation. Lire et écrire, c'est important. Diminuer le nombre des analphabètes, ça permet à la femme d'être autonome, ça permet à la femme d'évoluer, ça permet à la femme de se développer d'abord elle-même et développer aussi son environnement.
Oui, madame, c'est une des résolutions qui découle de cette conférence. Vous allez vous engager avec ces femmes. Concrètement, comment vous allez faire? Parce qu'on vous a entendu, je n'ai pas d'école à construire. Concrètement, comment vous allez vous y prendre avec ces femmes aujourd'hui pour lutter contre l'analphabétisme de femmes?
Moi-même, je suis le bureau d'études pour l'implication des femmes à atteindre les ODD. je vais travailler avec les structures existantes. Au sein des églises, par exemple, il existe des structures de formation, donc d'alphabétisation. Et puis les structures des femmes de la société civile, les femmes de confession religieuse aussi, les femmes paysannes, les femmes maraîchères, parmi lesquelles il y a des analphabètes, nous allons les recruter, collaborer avec elles, demander à celles qui acceptent, parce qu'il faut commencer par accepter, être disponible, et nous allons les prendre en charge personnellement à travers le bureau. Nous allons commencer par une équipe de 50 femmes qu'on va introduire dans ces écoles. On va les inscrire, nous allons les suivre, nous allons payer leur formation.
Un petit rappel, madame, est-ce que vous pourriez nous parler de ces ODD?
Le monde a adopté 17 objectifs. Lutter contre la faim, lutter contre la pauvreté. Vous savez que le Congo est un pays pauvre, très endetté, alors que nous avons des ressources incommensurables. Il suffit seulement de les transformer en richesse pour impacter sur le vécu quotidien des Congolais et aller vers le développement. Chaque État est obligé d'introduire ça dans leur programme de développement, dans leur budget. Augmenter le budget lié à l'éducation, par exemple. Augmenter le budget pour les soins de santé. Prenons le cas des femmes. À travers le monde, beaucoup d'États ont déjà obtenu la gratuité des consultations prénatales. Beaucoup d'États ont obtenu la gratuité des césariennes, par exemple. Beaucoup d'États ont obtenu la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Ça se trouve même dans notre constitution. Mais on n'applique pas parce qu'il n'y a pas un budget décent pour l'éducation. Par rapport aux villes, on détruit tout ce qu'il y a comme bidonville, on construit un habitat décent. Là où il y a l'eau, l'accès à l'électricité. L'énergie, l'électricité est importante pour le développement. Si vous avez l'énergie dans les milieux ruraux, les femmes vont avoir la possibilité de donner la valeur ajoutée à leurs produits agricoles. Et aussi la mécanisation même de l'agriculture, ça permet aux femmes de réduire le temps de travail et avoir un rendement important.
Eve Bazaïba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà qui termine ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis.